simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, on va vous parler de ce qui s'est passé le 22 mars, non pas en 68, mais 50 ans après. Donc dans la rue, entre autres, au niveau des cheminots, au niveau de, des fonctionnaires, mais aussi des assimilés fonctionnaires ou des gens qui ont été dans la rue le 22. Alors je crois que tu étais à Paris le 22.
Ouais. Alors, ben peut-être que, parce qu'il faut pas non plus que focaliser sur Paris, hein, évidemment, il y avait une manifestation centrale, normalement, à Paris, mais il y a eu beaucoup de manifestations dans le reste du pays, et non pas la province, comme on doit dire. On estime qu'il y a eu à peu près 500 000 de personnes hein, dans la rue au cours de cette journée du 22. Je vous vois faire la moue. Vous avez des estimations plus hautes?
Non, plus basses.
Bon, alors, bon, bah, moi, j'ai pris l'estimation à bah, 2000 à Reims, quand même.
C'est pas mal.
Plus en plus des conditions climatiques qui étaient pas super agréables. Donc, ça note quand même des choses. Évidemment, les cheminots étaient, au rendez-vous pour leur première journée de mobilisation. Il est à noter que, et on le dira dans l'entretien qu'on a eu avec un cheminot de Reims, qu'il y a eu de nombreux obstacles au fait de pour les travailleurs de la SNCF de se rendre à Paris. En effet, il y a eu une petite stratégie de la part de la direction de la SNCF de supprimer des trains qui n'avaient pas lieu d'être. Donc ben c'est normalement le moyen qui est privilégié par les cheminots pour se rendre à Paris, mais il y avait quand même de nombreuses personnes à Paris, avec en plus un second cortège qui était un cortège de la fonction publique que je n'ai pas vu puisque moi je suis resté dans le gros cortège. Ces deux cortèges se sont rejoints ensuite à Bastille et il y avait une assemblée générale à la Bourse du Travail après pour ceux qui voulaient. Alors on va s'écouter quelques sons qu'on a ramené de cette manifestation hein, très rapidement pour quand même essayer de donner un tout petit point de vue sur les gens qu'on a pu rencontrer là-haut. Il est à noter que cette manifestation, elle avait lieu d'abord par un rassemblement et un point fixe à 13h à la gare de l'Est, et que donc ça a permis notamment à nombreuses assemblées générales de dérouler le matin. Et tous les gens qu'on a pu rencontrer et les lieux qu'on a pu se déplacer dans les grandes gares parisiennes ont relevé que ces assemblées générales étaient assez fortement comment dire abondé, la plus grande étant à
Paris Nord,
c'est ça, ouais. Avec un peu plus de 400 personnes, certainement 500, qui étaient là, qui participaient, qui se sont exprimés, avec une majorité notamment de non syndiqués, mais aussi des gens qu'on appelle de manière assez mal dite des prestataires, qui sont en fait des gens qui bossent à la SNCF mais qui n'ont pas le statut. Hein. C'est par exemple le nettoyage, hein, où il y a eu nombreuses luttes au cours de ces dernières années, avec notamment une boîte en ce moment qui est en lutte sur Paris, qui s'appelle Honnête, qui est une des plus grosses entreprises de nettoyage et de services aussi, hein,
font
de la sécurité en France, etc. etc. Donc il y a plein de petites il y a plein de boîtes, hein, qui prennent des chantiers à la SNCF, Chalancin, Laser, etc. Mais Honnête est une grosse boutique. Il y a des grèves en ce moment sur Paris, et il y a eu une volonté de la part de ces travailleurs extérieurs, ces travailleurs non statués, de prendre la parole et de mettre en avant leurs conditions, et puis surtout, et ça c'était intéressant par rapport à la potentielle lutte qu'il pourrait y avoir à la SNCF, de leur démontrer que eux, quand ils étaient en lutte, ils étaient en lutte en reconductible, en grève, et pendant 40 jours. Hein,
Donc
le combat, il était acharné, et quelque part, des gens qui sont dans une précarité.
Qu'au niveau des conflits récents qui ont eu lieu et qui se sont terminés par une victoire, pour Honnête à Paris, mais il y a eu aussi une boîte qu'on a parlé ici, on a failli avoir l'interview qui a été ratée.
Emera. Emera, c'est boîte de nettoyage dans les grands hôtels, hein, Holiday Inn, etc., etc. C'est effectivement les conflits qui ont gagné.
Ça dure très longtemps et ça a été des victoires.
C'est âprin. Et donc ça donne quelque part une idée du bras de fer qu'il faut engager par rapport au patronat et par rapport évidemment à l'État. Et surtout quelque part ça met en relation un discours qui voudrait être un discours de lutte avec des enjeux qui, semble-t-il, sont extrêmement importants, puisqu'on parle de services publics, on parle du rail, quelque chose qui sont extrêmement importants, et une pratique réelle. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir dans les sons qu'on a pris. Alors, on s'écoute ça et puis on commentera après. Vous tendez bien l'oreille parce que les conditions sont pas simples.
Vous venez de Nantes, tous les quatre, tous les cinq.
Ouais.
Et alors comment tu perçois le début du mouvement?
Bah là, tu vois, la manif, ça montre quand même qu'il y a énormément de cheminots qui sont mobilisés, en grève d'ailleurs, pour une énorme partie. Et il y a une manif à Nantes, il y en a aussi, nous on est venus à Paris, il y a des collègues qui sont restés sur place. Et les collègues en grève, c'est quand même énorme, hein. Il y a même l'encadrement qui s'y met. Bon, mais ça veut dire des choses. Au boulot, on n'arrête pas que de parler de ça, quoi. Et de la suite du mouvement. Il va prendre, on verra ce que ça, quelle gueule ça prend, tout ça, ce mouvement. Mais en tout cas, il faudra qu'on défende aussi l'idée que c'est aux grévistes de s'organiser dans les AG. On construise notre mouvement. On n'est pas de compte à rendre à quelques directions syndicales qui soient, mais qu'on s'organise la grève nous-mêmes, les grévistes, quoi. Et c'est ça qui peut changer les choses. Personne ne sait quelle gueule elle va prendre la grève, si elle prendra deux jours par-ci, deux jours par-là, ou à un moment donné ça va craquer, et on continuera pour de bon, et c'est ce qu'il fait. Moi je vais militer, et on militera autour de nous pour que ça prenne cette tête-là, qu'on décide de barrager. Et au jour le jour, ce qu'on fait, qu'on soit capable de s'adresser aux autres travailleurs. C'est ça qui va compter. Quand les usagers, les travailleurs, ils nous regardent, les retraités qui manifestent, bah ça, je suis pas sûr que le gouvernement il soit si à l'aise avec ça, parce que la partie, elle est pas gagnée pour eux. Et nous, on a toutes nos forces à mettre dans la bataille, et bah c'est ce qu'on va faire. Avec nos armes, avec la grève. Voilà.
Là, vous êtes cinq, là, et vous êtes tous pour syndiquer, vous êtes quand même en grève.
Les syndicats font de la récupération.
Non, c'est pas le sujet.
Vas-y.
C'est pas le moment de dire ça. Tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Hein.
Même les retraités, ils viennent faire grève.
Ouais. On enchaîne chez nous.
Et pourquoi vous n'êtes pas syndiqué? Parce que qu'est-ce qui vous branche, qu'est-ce qui vous branche pas?
C'est se diviser. Syndiqué, je pense aujourd'hui, c'est se diviser. Chacun sa manière, on le voit là. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas vu le drapeau SNCF. Il doit y avoir que le drapeau SNCF aujourd'hui. Pas de CGT, pas de Sudrail, que des cheminots. Tous ensemble, on est tous dans la même galère.
Tu veux dire, je trouve que les mecs, ils ont des étiquettes,
ouais.
Et ils battent d'abord pour leur étiquette.
Je pense pas qu'ils se battent pour leur étiquette, mais d'une manière ou d'une autre, ça crée des sous-familles. Je sais pas comment dire ça, mais... Aujourd'hui,
des groupes, quoi.
Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, le seul groupe qu'il doit avoir,
c'est d'avoir que la CGT, les
cheminots. C'est la CGT, les cheminots.
C'est trop politisé, les syndicats.
Et pourtant, toi,
pour les syndicats.
Voilà, tu te reconnais autant la FTSF, elle appartient autant à toi qu'au syndicat. Quoi.
Elle appartient surtout à nous, à tous les cheminots, mais c'est vrai, à tous les cheminots.
Ouais.
Elle t'appartient aussi.
Tu peux penser que tu payes cher, mais une fois que ça va privatiser, ils vont vouloir faire du chiffre. Ça va augmenter. Et après, qui c'est qui va s'en plaindre? Bah, ça va être toi, moi.
C'est pas une obligation. Aucune obligation. Mais par contre, heureusement que les syndicats existent quand même.
Non, ça fait sur les
syndicats.
Ouais, donc toi tu es syndiqué mais t'as un point de vue critique là-dessus, là, dis-donc.
Ouais, parce qu'en réalité c'est quoi? C'est qu'en fait ils veulent appeler à l'unité. Mais en fait quand il n'y a pas l'unité entre Sudrail, qui est pour une reconductible, et la CGT qui a pondu un calendrier de grève qui est vraiment absurde, sans avoir consulté la base, ce qui est contre la grève, contre même le fondement même de la grève, tu vois déjà qu'il y a, il y a une cassure de base. Alors, ils sont mis sur l'estrade et ils ont fait front. Mais en réalité, il y a un malaise profond. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut repenser la lutte. Et quand je te dis qu'ils veulent soigner leurs adhérents, c'est-à-dire qu'ils veulent pas perdre la main sur le conflit. Bob Martinez, Grin, là-haut, ils ont pas envie, tu vois, que la base parte d'elle-même. Voilà. Ils savent que les élections, ça arrive au mois de novembre. Pour moi, il y a des manières, c'est des méthodes électoralistes. Voilà. Après, si la base est anonyme, ils suivront, comme en 95, comme en 86. Et pour l'instant, ils le savent très bien. Financièrement, voilà, ils savent que les cheminots, c'est pas si sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont pondu ce calendrier-là, et voilà.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour justement les faire aller dans le sens qu'on voudrait, quoi?
Dire que la base est contre le fameux calendrier.
On veut se battre sur l'histoire. Et l'histoire t'apprend qu'un mouvement, c'est reconductible au jour le jour, les âgés. Il n'y a pas un mouvement comme ça qui fonctionne. C'est impossible. Ça impactera pas déjà la production, ça bloquera pas les trains ni rien. Et genre, on pense pas à économie, c'est pas possible.
Si la France n'est pas bloquée, le combat il est perdu.
Tu fais forcément une grève en perdant de l'argent. Ils ont pensé, c'est la lutte à l'envers ce qu'ils ont pensé.
Ouais.
Là, ils l'ont rentré dans la tête de certains cheminots, et t'as des cheminots qui se disent « Ah, c'est peut-être une bonne méthode, on va pas perdre beaucoup d'argent, on fera rien. »
Tu t'es préparé à la grève, toi, ou pas, financièrement?
Ouais, mais moi, ça va, moi. Moi, j'ai vu les conjonctures actuelles, j'ai placé de l'argent de côté, j'ai économisé, donc moi, je peux supporter cette grève. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes cheminots qui ne pourront pas. Voilà, donc en fait, si tu veux, plus réellement, il va se décider début avril. Là, on va vraiment savoir. Parce que réellement, Sudrail, eux, ils sont motivés, ils veulent partir sur une reconductible. Et derrière, il faut qu'ils fédèrent. Parce que Sudrail, ça représente, je sais pas, 15-20%. Et tout seul, ils iront pas. Les mecs vont faire 3 semaines et après, derrière, moi, je suis pour une reconductible. Mais partir, acheter des munitions financières, c'est mort. Et là, d'accord. Donc ce qu'il faut, c'est fédérer les autres. Ça va être compliqué. Là, on a la semaine pour s'organiser. Et comme ce matin, dans les AG, il y a une prise de conscience qui a été faite. Il fallait repenser la lutte différemment. Pas comme en 2014, pas comme en 2010. Une autre façon de lutter. Impliquer surtout les non-syndiqués. Pas les syndiqués qui fonctionnent comme les syndicats, alors tu vois. De matière, on va dire, normale, comme là. Quoi. Des manifs comme ça, j'en ai déjà vu. Elles amènent à quoi? À rien. Des récupérations syndicales. Il faut, c'est la base, les non-syndiqués. Que les cheminots reprennent eux-mêmes le contrôle sur le rôle. C'est que comme ça que ça fonctionnera.
Et alors comment ça se passe dans les AG? Il y a des AG sur ton site?
Oui, il y a des AG. Ouais.
Ça cause?
Ouais, ça coûte pas beaucoup. Et là, c'est pas trop, mais tu vois, on essaie de s'investir. Là, sur Paris Nord, on va essayer de construire quelque chose. Le bon gère. On va essayer de construire quelque chose pour essayer de fédérer le plus grand nombre.
Après, quand il n'y a pas plus de monde, je laisse les personnes plus expérimentées. Parce que quand on parle, c'est important que le message soit clair et qu'on sache de quoi parler. Donc là, on laisse les personnes un peu plus expérimentées aborder un peu plus ces sujets. Mais on équipe, oui, on se fédère entre nous, on se motive entre nous. Et je peux vous dire qu'on est motivé. Donc on vivra, en tout cas, je vivrai jour le jour avec ce que j'ai, ce que j'ai pas.
T'en fous, quoi, en tous les cas, dans ta tête, ouais.
Moi, je me dis que je perds tout aujourd'hui. Donc j'en perds un petit peu tous les jours, certains pareil. Donc voilà, moi j'y vais, je compte pas ce que je vais perdre, parce que je sais que ce que je vais perdre en général sera plus important.
On verra bien.
On y va et on verra bien.
Ouais.
Ouais. Alors ouais, t'as vu les conditions hein, aussi oui. d'enregistrement. C'est d'ailleurs un point qui peut être anecdotique, mais qui n'est pas tant que ça. Hein. C'est-à-dire que devant cette place de la gare de l'Est, là, pendant une heure et demie, n'était pas encore en manif. Hein. Donc on pourrait imaginer que c'est un moment où on peut discuter. Alors t'as des prises de parole type pop-up girl et animateur de Club Méditerranée pendant une demi-heure, et après t'as la musique à donf ouais. avec la merguez partie qui commence quoi. Et évidemment c'est très difficile de pouvoir débattre, échanger, alors que bon, bien sûr, évidemment, les premiers échanges doivent se faire sur le lieu de travail et pendant les assemblées générales qui sont le lieu d'organisation de la grève et du mouvement, mais c'est aussi ces moments-là qui fait qu'on se rend compte, qu'on discute et qu'on permet d'échanger pour renforcer soit son point de vue ou soit avoir des contacts, des choses. Et c'est très difficile de produire quelque chose d'intelligible pris dans cette masse et dans cet écrasement sonore et dans ce fait que ce n'est pas une kermesse quoi. C'est un moment de lutte contre quelque chose qui est important quoi. Alors moi, ce que je peux donner comme sentiment, qui est évidemment ouais. quelque chose d'absolument pas objectif, très partiel évidemment, mais je pense que il y avait 2-3 autres interventions qui étaient malheureusement beaucoup moins audibles, mais qui allaient dans le même sens. D'une part, il y a une lucidité qui est assez claire, à la fois sur comment on fait pour gagner et sur la stratégie qui est en ouais. place. C'est-à-dire que les gens qui soient syndiqués ou pas syndiqués, alors quand ils sont syndiqués, c'est syndiqués de base, hein, ils sont tout à fait conscients que ce qui devrait être leurs alliés sont plutôt des obstacles ou des boulets, que donc il va falloir mettre la pression sur eux et être capable de s'organiser et d'y aller. Deuxièmement, ils mettent aussi plein de choses dans ce truc-là. C'est-à-dire que évidemment, il y a les conditions de leur travail à la SNCF qui sont déjà dégradées depuis des années, puis les mouvements qu'ils ont déjà eus, donc ils ont un retour sur expérience, comme on dit assez horriblement, mais ils mettent aussi, j'allais dire, peut-être pas de la politique, mais la contestation d'une situation globale. La vie est dure, la vie est chère, tu votes pas, ça change rien, t'es toujours dans la merde, tu te fais cracher à la gueule, t'as les chefs, etc., etc. Donc pour eux, c'est aussi un moyen d'en découdre, parce que il y a une envie d'en découdre qui est là et qui est multiple, en tous les cas, qui recouvre ce qu'on pourrait appeler, nous, une conscience de travailleurs quoi. Et là en se reconnaissant à plusieurs et à multiples par la grève, on a une existence qui est tangible, qu'on peut toucher, qui est réelle. D'autre part, il y avait énormément de gens qui étaient là, qui étaient pas cheminots, qui venaient et qui discutaient, apportaient leur soutien aux gens en grève. Et à plusieurs reprises, on m'a parlé de communautés d'usagers et de travailleurs qui avaient distribué des tracts. En tous les cas, les travailleurs qui étaient en grève ressentaient qu'ils avaient un appui et un soutien populaire, hein, de la majorité de la population, et que celui-ci se manifestait, je dirais, peut-être pas comme auparavant, mais bon, il n'y a pas eu de manifestation du déjà en colère, même si ça a toujours été des trucs super marginaux, hein, des trucs téléguidés et arrangés, bien sûr, c'était que des trucs comme ça, mais il n'y a pas de gens ce matin qui leur crachaient à la gueule pour, en leur disant vous êtes des privilégiés, quoi. C'est vraiment un truc comme ça. Donc évidemment, on va dire que toute la stratégie de l'inertie sociale, ça va être de pouvoir dégonfler et pouvoir ralentir tout ça.
Alors d'après ce qui il y a quelqu'un qui le dit très bien, grève reconductible, de toute façon, si on n'en fait pas, on a perdu. Alors que la CGT a tout fait pour que ça soit 2 jours. par semaine, 2 jours sur 5 jours exactement, pour que les cheminots perdent, paraît-il, moins d'argent et que ça fasse, ça dure plus longtemps et que ça fasse pression beaucoup plus. Alors qu'il y a beaucoup de cheminots qui te disent le contraire. D'ailleurs, on l'a entendu là en disant, si on veut vraiment, il faut que le pays soit bloqué. Si on bloque pas comme en 95 le pays, eh bien, on l'aura dans le baba. Et je crois que c'est important ça, parce que, alors, il y a aussi peut-être des différences entre 95 et puis c'est quand même il y a 23 ans, hein. Au niveau de représentants, de la représentation syndicale, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a moins de syndiqués cheminots qu'il y en avait en 95.
Certainement.
T'as les chiffres? Tu sais pas?
J'ai pas les chiffres en tête, mais, aux alentours, on sait qu'à la SNCF, tout syndicats confondus, il y aurait entre 17 et 21%.
Waouh, c'est quand même
assez beaucoup, hein, sur 5. Ouais. Ben, il faut voir que sur certains secteurs, le poids de la syndicalisation te permet d'avoir un avancement de carrière. Exemple, sur les agents de conduite. La FJAC, Fédération Générale des Agents de Conduite, qui aujourd'hui est à l'intérieur de l'UNSA, est vraiment complètement super, super forte. Qu'est-ce qu'il y a, Camille ?
Non, c'est pas l'UNSA, c'est la CFDT.
Il y a un bout qui a, pardon, je fais une confusion, tu as raison. Mais il y a un bout qui a l'UNSA sur les agents de conduite, c'est pas grave. Peu importe, c'est pas grave. Mais bon, elle a gardé son organisation sur le secteur des agents de conduite. Ouais. Par exemple, eux sont très importants dans l'avancement de carrière et dans la gestion. Après, il y a moins de syndicalisation. Il y a également moins de politisation, puisque quand on parle de 95, au niveau de la massification, il y avait beaucoup, on est qu'à 150 000 travailleurs qui ont les statuts de cheminots, hein, la SNCF, hein. Faudrait regarder, mais ça devait être 210, je crois, 210 000 en 1995, et à l'intérieur de ça, il y avait des gens qui avaient connu le mouvement de 86, d'autres qui avaient connu aussi encore auparavant les années 70, donc une habitude et un rapport à la lutte qui était différent, mais aussi il y avait encore des militants politiques. Et au niveau de la culture syndicale, on va dire les choses sont extrêmement partialisées, quoi, hein. C'est-à-dire que culturellement, la CGT est toujours plus ou moins lié au PCF, même si ça a tendance un petit peu à se déliter. Et de l'autre côté, Sudrail apparaît comme un syndicat plus jeune, plus féminin, avec une culture différente, notamment au niveau de la population issue d'immigration. Donc il y a des cultures politiques et syndicales qui sont différentes. Mais et on en parlera avec le deuxième son, puisqu'on on a interviewé un responsable syndical CGT qui était en congrès aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, c'est de voir et de peut-être là justement où cette barrière et cette petite chose pourrait, petit grain de sable pourrait changer. D'une part, beaucoup de non-syndiqués dans la manif.
Ouais, c'est très important.
C'est très très intéressant, parce que on dirait entre guillemets que c'est des gens qui sont libres, hein, aussi dans leur tête, parce que bon, quand tu fais un mouvement, après des fois dans ton syndicat tu peux avoir des positions maximalistes ou on va dire un peu radicales, mais après si tu te fais moucher si tu te fais démettre, faut revenir après, hein, faut tenir. Donc voilà, des gens qui sont libres. Et puis surtout, et ça c'est vraiment très 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 intéressant, des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire grève et de venir en manifestation, de l'encadrement, même des cadres supérieurs, ça c'est la CFDT, et puis de l'UNSA, beaucoup de gens qui étaient là, et des gens qui ont pris le train pour venir à Paris, qu'on a pu rencontrer de ci de là, qui pour certains c'était leur première manifestation, quoi. Alors t'es depuis 15 ans à la SNCF, c'est ta première manifestation,
faut espérer que ça soit pas la dernière.
non c'est clair. En plus, bon, ça a été calme, hein. On a certainement, je sais pas quelle relation vous avez eu par rapport aux incidents, c'était relativement faible. Bon, évidemment, il y a des choses, il y aurait des choses à dire là-dessus, mais bon, c'est pas le propos. Le plus intéressant, c'est que les gens étaient dans la rue et que les gens étaient contents d'être dans la rue. Alors bon, voilà, ça c'était le 22 mars, hein, jolie date pour commencer un mouvement social, hein. La prochaine, c'est le 3 et le 4 avril, lundi 3 et mardi 4 avril, puisque comme ça a été évoqué, la CGT a déposé des préavis sur 12 préavis sur
de deux jours,
ou en moyenne, puisqu'il y a des préavis de 3 jours sur les 3 prochains mois, donc 36 jours de grève sur les 2 mois et demi qui suivent, afin que chacun puisse s'en saisir. Mais il n'empêche que de toute façon, d'un point de vue, on va dire, strictement légal, il y a des préavis qui sont illimités, qui sont déposés par Sudrail. Donc, si les gens veulent se mettre en grève, ils peuvent se servir.
Je crois qu'il va y avoir un sacré enjeu le 4 au soir pour savoir si on fait, si on continue la grève le 5 ou si on, si on reprend.
Ouais. C'est ça. Alors, on va entendre le son qu'on a réalisé tout à l'heure pendant la pause. Voilà.
Mais alors c'était une très bonne journée de mobilisation sur la région, on était plus de 300 cheminots à monter à Paris, c'était l'objectif. Et ensuite, comment pour un avertissement fort tel qu'on l'avait, on l'avait demandé à nos collègues, oui, c'était du niveau attendu, même au-delà. Ensuite, c'était une très belle manif sur Paris, on était environ 20 000. Et avec toutes les difficultés qu'on sait pour monter à Paris ce jour-là, la boîte a fait tout ce qu'il fallait pour supprimer le maximum de trains et empêcher des cheminots de Bretagne ou des.
Ouais, c'est ça. Il y avait une rumeur qui circulait dans les discussions qu'on avait avec les cheminots de, on va dire, des espèces de d'obstacles qui avaient été mis à avoir une vraie concentration des cheminots pour la manif nationale de Paris. Tu confirmes ces impressions-là?
Ah oui, c'est pas une rumeur ni une impression, c'est un fait, c'est factuel. À Reims, il y a très peu de grévistes chez les conducteurs de TGV, ils ont supprimé le 8h15 et le 11h45. On va dire 8h15 et il aurait pu rouler, quoi. Clairement, elle a supprimé la moitié des trains tels qu'ils l'ont fait dans la région. Faudra qu'ils nous expliquent alors qu'il y avait des conducteurs qui étaient en grève, qui étaient prêts à se remettre en service pour faire rouler les trains qui allaient bien. Hein, bon, après, c'est toujours délicat, mais en tout cas, il y avait des collègues qui étaient prêts à se remettre en service ce jour-là et on n'a pas fait appel à eux volontairement. Et c'est donc pas que sur notre région. Donc nous, on a mis la pression au sein de la boîte. Bon, sur la région, on n'a pas été entendu. Sur d'autres régions, ça a été possible. C'est-à-dire que, voilà, l'entreprise, face au rapport de force, elle a su aussi remettre en service des trains qui n'étaient pas prévus au départ dans le plan de transport adapté. Et donc voilà, ça c'est un fait. Donc maintenant, nous, on se met en route pour les 3 et 4 avril. Donc c'est la première séquence de grève la semaine prochaine, donc mardi et mercredi. Et voilà, la température monte petit à petit. Là, maintenant, on tape dans le dur et on appelle les cheminots à se mobiliser comme jamais, comme ils étaient déjà prêts à le faire la semaine dernière. Maintenant aussi, ce qui va se jouer, c'est la convergence des luttes. Pour nous, c'est vachement important. Le service public ferroviaire, il appartient pas qu'aux cheminots, il appartient aussi aux usagers. Et il appartient aussi, donc, dans ce cadre, mais sur leurs revendications propres, à d'autres boîtes, dans le privé, dans le public, se mettre en ordre de bataille pour faire converger les luttes. Parce que sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'emploi, c'est partout la même politique. La financiarisation de l'économie, elle provoque ça. Commencer à faire plus avec moins de bonhommes souvent et des organisations de travail qui sont souvent énormément dégradées et on laisse on va dire la conscience professionnelle faire le reste dans les boîtes hein. C'est vrai dans le service public, les hôpitaux, les écoles, la SNCF, mais c'est vrai aussi dans le privé. C'est soit des plans de départ volontaires, soit c'est des plans de licenciement massifs, comme on voit dans certaines enseignes de magasins qui font la une des journaux, ou dans la grande distribution aussi, avec Carrefour. Hein, ouais. Et souvent, le point commun de ces boîtes, la nôtre ne déroge pas la règle, c'est qu'elles touchent énormément d'argent du CICE, par exemple, qui a été mis en place sous le gouvernement précédent. Ça se chiffre parfois en centaines de millions d'euros pour les multinationales, la SNCF, Carrefour. Et elles n'hésitent pas à supprimer plusieurs milliers d'emplois par an. Donc voilà, ça c'est inacceptable. Je veux dire, s'il y a des citoyens qui nous écoutent, dire voilà ce qu'on fait de vos impôts. C'est-à-dire, on les verse à des multinationales qui n'en ont pas besoin, mais alors pas besoin du tout. Hein. Et qu'est-ce qu'elles font avec? Elles suppriment de l'emploi.
Je reviens une fois encore sur la journée du 22, par rapport notamment à, d'une part à l'état d'esprit, d'autre part à la typologie des grévistes. Il y avait des gens qui
soit n'avaient pas l'habitude de faire grève, ou alors de faire grève sans se déplacer, sans manifester, notamment dans des catégories de personnel, mais aussi dans des encadrements syndicaux qui n'étaient pas forcément coutumiers du fait.
Ouais,
c'est et ça. Puis, d'autre part, l'état d'esprit, il y a le sentiment quand même que, d'une part, les cheminots étaient très en colère par rapport à la manière dont ils avaient été traités en général dans l'opinion publique, et en particulier le rapport au travail à la SNCF, mais le sentiment également que, pour une fois, ils étaient et soutenus et reconnus par l'ensemble des salariés, du public comme du privé, et que même si ils défendaient le service public, ils incarnaient quelque chose qui les dépassait pas, parce qu'ils défendent d'abord leur bistec et c'est normal, mais que une fois, il y avait vraiment ce sentiment de si on laissait passer ça, on allait se faire marcher dessus. Pour le reste, à la SNCF oui. d'une part, mais en général dans la société d'autre part, et que il y avait un moment, il fallait dire ça suffit. Voilà.
Oui. Oui, mais ça, c'est le sentiment qui se dégage des tournées syndicales, des rencontres avec l'encadrement et les cadres dirigeants notamment. C'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol qui se dégage. Et puis la participation à la manifestation de cadres hein, aussi, ouais. faut se le dire, voire de cadres supérieurs. Et comme tu l'as signalé, après, c'est tout collège, tout service, de gens qu'on n'amenait jamais en manif. Moi, j'ai rencontré un de mes syndiqués que je voyais jamais parce qu'il n'est pas sur la région. Voilà, il s'est déplacé, mais il n'est pas seul. Et ça dépasse aussi les générations. Ça aussi, c'est important, on ne le rappelle pas souvent. Moi, depuis que je milite, c'est-à-dire depuis 2007, j'ai toujours connu un fossé générationnel ou professionnel. C'est-à-dire exécution cadre en opposition. Et puis les anciens proches de la retraite avec les plus jeunes 10 ans, c'est aux jeunes de se bouger. Là, c'est tout le monde qui se bouge, c'est tout le monde qui a compris, en tout cas ceux qui n'ont pas compris, ils vont comprendre. Alors en 2014, la boîte leur a dit que ça changerait rien, la réforme du système ferroviaire en 2016, on leur a dit que le nouvel accord sur le temps de travail dans l'entreprise, ça changerait rien. Là, franchement, ils ont compris la leçon, quoi, je crois. Voilà, à force de se faire mettre, si je peux rester poli, voilà, les gens ils ont compris collectivement. Voilà, c'est pas forcément vrai au cas par cas, mais globalement, voilà, il y a un climat social propre à la contestation et qui est vraiment particulier, et qu'effectivement tout le monde parle de 95. Mais moi, j'aimerais qu'on dépasse aussi 95, parce que derrière, voilà, il y a eu la vague d'embauche après l'accord, la signature de l'accord 35h99, qui m'a permis de rentrer moi à la SNCF. Maintenant, 15 ans après, toutes les embauches des 35 heures, elles ont été bouffées par la productivité, suppression de lignes, suppression de gares, fermeture de dépôts, fermeture de lignes. Voilà, c'est simple. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Et on conteste pas seulement le projet du gouvernement et de l'entreprise. Nous, on en propose un nouveau à la CGT. On propose ensemble pour le faire. Et ça, on l'a vu lors des conférences de presse au national. Le gouvernement, il est bien gêné, quoi. C'est-à-dire, c'est pas seulement des Gaulois dans leur village qui viennent casser la gueule aux Romains, qui les font chier. Hein. Bon, ça, c'est un peu vrai. Mais en même temps, on propose autre chose. On dit un autre projet de société. Et ce qui pourrait être, ce qui est vrai, CGT cheminots doit s'élargir au-delà. Hein. Moi, je pense il y a les fédérations qui ont d'autres projets, des contre-projets. Voilà, un autre choix de société. Ce qui est pas fréquent, puisque tout nous est imposé depuis Paris, depuis le gouvernement, depuis Bruxelles, pour certaines choses. Bon, c'est le cas aussi hein, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Voilà, là, l'intersyndicale, elle pose des questions hein,
ouais.
au gouvernement. C'est-à-dire, on accepte d'aller aux rencontres ministérielles, mais pas pour s'entendre parler, mais pour dire voilà au gouvernement, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous êtes toujours pour l'ouverture à la concurrence telle que vous l'avez annoncée? C'est oui, c'est non. Hein. Et puis ensuite, est-ce que vous êtes pour la nouvelle organisation de l'entreprise telle que vous l'annoncez, oui ou non? Hein. Ils étaient toujours dans l'optique d'aller jusqu'au bout dans leur projet. Donc voilà, nous si à chaque fois c'est comme ça, ça ira vite les discussions. En tout cas en région. Mais par contre, ce que je rappelle, c'est que la grève, elle appartient aux grévistes. Hein, si en AG, les gens ils se déplacent pas, enfin, tous ceux qui peuvent hein, participer aux assemblées générales qui auront lieu le matin sur Reims, on n'a pas encore fixé définitivement l'heure dans le cadre de l'intersyndicale, aux alentours de 10-11 heures, en gare de Reims, tous les jours, de grève. Donc la semaine prochaine, 3 et 4 avril, le mardi et le mercredi. Voilà, il faut qu'ils viennent et qu'ils viennent acteurs de ce mouvement. Là aussi, à la différence des mouvements ces 15 dernières années, hormis les premiers jours de mobilisation où les gens se déplacent massivement, et c'est ce qu'avaient connu les anciens 95, c'est une implication des grévistes dans la grève. c'est pas une affaire de professionnel. Hein. Alors, on sait faire, c'est pas le sujet, mais moi, je ferai pas tout seul. Hein. Mes camarades, on est quelques-uns, on fera pas tout seul. Les gens, s'ils veulent que ça bouge, eh ben, il faut qu'ils se bougent aussi. S'ils veulent que ça change, il faudra qu'ils changent aussi.
C'est ça, c'est quelque part, l'enjeu, ce que tu disais, ouais. 95, c'est autre chose, etc., même s'il y a ce souvenir qu'il a. Les souvenirs, c'est bien, mais il faut pas que ça devienne des mythes, qui soient justement indépassables.
Oui.
Ce qui va faire la force du mouvement, c'est ce que les gens mettront dedans, et c'est sa capacité à se construire comme mouvement en autoréférence à soi-même. Alors, t'as dit, pour ça, participation aux âgés, qu'est-ce que je voulais poser comme question? Ah oui. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient pas cheminots, tu vois, mais qui bossent quand même à la SNCF, qui étaient là? Tu vois pas, genre nettoyage, service annexe, etc. Et est-ce que tu crois qu'il y a de la réserve en termes de grévistes? Parce que concrètement aussi, le rapport de force, il va se faire là, par rapport au fait de bloquer les trains et de montrer sa force.
En région Champagne-Ardenne, les prestataires, ils sont... on n'en a pas beaucoup, hein. Ouais. Dans le nettoyage, elles sont très peu, les filles. Par contre, sur Paris, il y avait Honnête qui s'était déjà mobilisé, qui appelait encore à la grève le 22 avec les cheminots et a participé à la manifestation. Donc ça, c'est important.
C'est chouette.
Ouais. Oui, mais c'est pas que c'est chouette. Ils continuent à lutter aussi. Hein. Ils luttent pour les salaires, les conditions de travail, la régularisation des sans-papiers pour certains collègues. Ça, c'est super important. Mais voilà, ils continuent aussi à se dire qu'il faut rien lâcher, quoi. Et que c'est une lutte de tous les instants. Que même quand on a gagné, il faut continuer à mettre la pression parce que en face, on a des directions de combat, peu importe l'entreprise, hein, et eux, ils lâchent rien. Eux, ils sont tout le temps dedans. Eux, ils sont tout le temps prêts à remettre en cause ce qu'ils ont signé la veille. Sous la contrainte, bien sûr. Il faut toujours tordre le bras à son patron pour qu'il t'augmente. Hein. Même quand tu es un très bon commercial, même quand tu es un très bon mécano, ça ne change rien. Ça, je veux dire, les gens, il faut vraiment qu'ils aient ça à l'esprit. Ils ne lâchent rien. Et d'ailleurs... Pour dépasser 95 et pour dépasser 68, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on lit dans la presse, c'est l'anniversaire de mai 68, faut refaire un mai 68. Moi, ça m'intéresse pas, moi. Moi, j'ai pas connu, j'étais pas né. Hein, c'est se dire, voilà ce qu'on a connu après 68, c'est la désindustrialisation massive, c'est le chômage de masse. Moi, ça m'intéresse pas de connaître ça. Je suis à la moitié de ma carrière professionnelle. Ça, franchement, pour moi, mes enfants, ça m'intéresse pas. Donc, c'est de reprendre le contrôle sur nos vies. Hein. Nous sommes les producteurs. Hein, voilà. C'est-à-dire, sans salariés, il n'y a pas de valeur ajoutée. Voilà. Les locaux, les machines, les engins, les ateliers, ils restent vides, ils restent à l'arrêt. Voilà. Nous sommes les producteurs. Et voilà, c'est à nous de décider. Voilà aussi ça, les gens, ils doivent se mettre à l'esprit. Souvent, j'entends dire, ouais, mon patron, il est formidable. Sans lui, ça serait pas possible. Alors, c'est peut-être vrai, il y a des vrais patrons, il y en a même de gauche. Hein. Mais comme dit le film, c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce. Et personnellement, j'en ai jamais vu. Donc voilà, les gens, ils doivent bien avoir ça à l'esprit, Jean-Mi. On est des collectifs de travail. Moi, je comprends pas pourquoi on dépasserait ça. On n'arriverait pas à dépasser ça en étant aussi des collectifs d'organisation syndicale qui est la main, qui est le contrôle sur notre vie, l'organisation du travail. Bon, mais chez nous, c'est l'organisation des roulements. On a des copains déjà qui sont vachement impliqués dans ça. C'est pas connu, mais nous, les spécialistes roulements sur la région, chez les contrôleurs, chez les conducteurs, ils sont à la CGT. Ils sont pas dans la direction. Hein. Mmh. Les meilleurs, ils sont là. Et ils savent travailler avec un crayon de papier et une feuille blanche. Dans la boîte, les logiciels, ils fonctionnent beaucoup moins bien que nos camarades. Et c'est vrai dans notre région. Moi, je connais personnellement les copains qui s'occupent de ça. C'est vrai aussi sur d'autres régions. Et des fois, la boîte, elle aide les organisations syndicales juste dans ce cadre-là. Hein. Elle nous dégage des moyens temps parce qu'elle reconnaît la valeur de notre travail. Et ça, au quotidien, ça doit être valorisé. Ce qui est possible chez nous, dans certaines catégories de personnel, c'est possible partout. Hein. Moi, je le vois bien, je l'ai connu. Des fois, c'est un atelier qui tourne grâce à un ancien, hein, qui a l'expérience. Moi, je vois pas pourquoi les gens ils s'imaginent pas voter pour lui dans le cadre de collectif de travail. Dire, voilà, pour le mois qui vient, c'est lui le chef. Et puis, parce que les chefs, on en a marre. Les chefs, quand on nous envoie de la direction, des jeunes cadres dynamiques, parfois pas forcément jeunes. Hein, c'est pas de la discrimination liée à l'âge. Hein, ça c'est la loi de Parker et la loi de Parkinson, hein, loi en économie. Souvent, certaines directions, ils n'hésitent pas à mettre des torpilles en place pour désinguer les collectifs de travail. Ouais, parce que faire bien tourner la boîte, c'est pas leur objectif. C'est un, faire du fric. Et puis deux, si on met de la mauvaise ambiance entre les salariés, c'est pas plus mal parce qu'ils se bouffent entre eux au lieu de réfléchir sur leurs conditions.
Dernière question avant d'aller déjeuner, parce qu'en plus, il y a le congrès qui reprend, donc il faut quand même souffler. Prochain rendez-vous 2-3 avril, et là, 2-3 et 4 avril, pour éventuellement une reconductibilité, c'est ça, si j'ai bien compris?
Oui, c'est ce à quoi on appellera les cheminots. Le 3, on vote la reconduction pour le lendemain, puisqu'on sera sur des prévis de 48 heures. Et le 4, on appellera à nouveau à la mobilisation le 8. Parce que nous, notre objet, l'objectif, c'est de durer. C'est d'appeler les cheminots à la mobilisation sur ces jours-là. Alors certains ont critiqué les modalités d'action, mais aujourd'hui, le contexte a changé. En opposition face à nous, on a des gens qui ont étalé le calendrier sur 3 mois. D'abord, nous, ça nous permettra aussi d'élargir notre mobilisation à l'interprofessionnel. Dans le cadre de la convergence des luttes, on en parlait en début de conversation. Et puis c'est de tenir la distance, parce que ça aussi c'est important. On a quand même 36 jours de grève sur 3 mois de poser en préavis de grève. C'est aussi du jamais vu. Et la direction, le ministère, ils étaient quand même bien embêtés quand ils ont vu notre calendrier et quand ils ont vu ce qu'on proposait dans le cadre de l'intersyndicale, ça aussi. Les 4 OS représentatives sont dans cette optique-là. Donc CGT, CFDT, UNSA sur le calendrier des 36 jours que je viens d'évoquer à partir des 3-4 avril, Sudrail avec un préavis de grève carré d'un mois à partir du 3, mais qui est aussi dans la concertation pour les séquences suivantes de 2 jours. Donc là aussi, une unité syndicale que moi, je n'ai pas vue depuis 2007.
Oui, c'est vrai, voilà. On n'en a pas parlé, mais ouais, effectivement.
L'unité syndicale aussi, elle dérange le gouvernement. Ils ont l'habitude d'avoir les syndicats réformistes de leur côté et de leur faire valider des projets majeurs. Mais là, ce n'est pas le cas.
Très bien. Eh bien, merci Sébastien. Alors, commentaire. Ah, on n'est pas dans la rue, là. On est dans un bureau.
Bah, disons que ce qu'il faut voir, bon, c'est... le mouvement cheminot, on voit ce qui peut se passer ou pas se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir certainement au niveau des cheminots deux stratégies, ceux qui veulent vraiment bloquer le pays et ceux qui veulent s'en tenir dans une grève très longue comme la CGT. Bon, on va voir, hein, c'est pas nous qui décidons, heureusement.
Malheureusement.
C'est ceux qui luttent, qui travaillent sur ce truc-là. Mais il n'y a pas que les cheminots. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute la fonction publique et aussi tous les salariés, voire même les précaires, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Il y a quand même eu, dans cette manifestation du 22-2, un certain nombre d'appels aux grèves reconductibles à partir du 3. On va voir si ça marche. Au niveau, par exemple, des ordures ménagères d'un certain nombre de villes, il y a eu à Nantes, à la fin de la manifestation, il y a eu une assemblée générale, comme il n'y avait pas eu depuis longtemps, où il y a eu 400 personnes tout de même. Hein. Donc c'est quand même pas négligeable non plus, même si c'était à Nantes. C'est normal, il y a du monde, plus qu'à Reims. Mais bon, n'empêche que, d'après ce que disait le copain, il y avait quand même une volonté de mobiliser et dans le futur. Dans le futur, c'est ça qui est important. Bon, alors, on verra. Il y a des appels donc qui sont faits. Un mouvement, c'est un bouillonnement. Ce n'est pas que... Il faut que ce soit un bouillonnement pour que ça marche, pour que ça soit vraiment un mouvement. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas se mettre dans la tête que 95 c'était que les cheminots. Mmh. C'était pas vrai. C'était pas que les cheminots. Il y avait les cheminots qui étaient moteurs. Maintenant, on n'est plus en 95. Je ne pense pas que les cheminots peuvent être moteurs comme ils l'ont été en 95. Je crois même que c'est pas ça, parce que en 95, on disait d'ailleurs, beaucoup faisaient pas grève et se reportaient sur le fait qu'ils font grève. C'était ce qu'on appelait une grève par délégation. Ils font grève à notre place, quoi. C'est-à-dire que c'était sympa pour eux de pas perdre de salaire alors que les cheminots perdaient. Donc là, il faudrait pas que ce soit la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'il y ait cette tendance à dire bon bah il y a les gens qui luttent, c'est bon, quoi. Voilà.
Alors, je pense que ce qui peut réussir à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est effectivement cette masse de gens qui sont pas forcément dans les cadres et sur lesquels on n'attendrait pas forcément qu'ils soient se bougent ou soit qu'ils interviennent.
Tout à fait. Je crois que les longs syndiqués vont avoir vraiment un truc. Puis il y a aussi un autre facteur qui peut être déterminant. C'est la jeunesse.
C'est ça.
Est-ce que la jeunesse a vraiment bougé? Ça commence. Apparemment, il y a des choses qui se passent dans certaines facs. Mmh. Toulouse, Le Mirail, Montpellier, bon. Mais Nantes aussi, région parisienne aussi. Mais bon, c'est pas, pour l'instant, c'est pas encore suffisant. Ils ont leurs propres revendications contre le parcours sup.
Ouais.
Mais si effectivement il y a des dizaines, des centaines de milliers de jeunes dans la rue, ça aura une autre gueule. Surtout au niveau du fait que ça peut permettre à des gens de se politiser. C'est ça qui est important, parce que bon, les mouvements de la jeunesse, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas eu vraiment de mouvement depuis 2007, je crois. Hein.
Ouais, depuis 2006 et le CPE.
Oui.
Et c'est ça qui est important, le mouvement social et la grève. Et intervenir, c'est aussi aller dans la rue, c'est bien évidemment faire grève.
Mais faire la fête.
Faire la fête. C'est donc effectivement suspendre la vulgarité de l'ordinaire pour pouvoir aller à la rencontre des uns des autres. Et peut-être que si 50 ans après mai 68, qui a été la plus grande grève ouvrière du XXe siècle, ce qui a été aussi, ce qui a permis aussi cela, ce que ça a engendré, c'est une libération inouïe de la parole. Et le fait que effectivement chacun était derrière son transistor, chacun faisait des rencontres et discutait de choses et d'autres, de la vie, et c'est comme ça qu'on fait de la politique. Or, ça fait des années que non seulement on est sur des échecs en termes de mouvements sociaux,
ouais,
on perd, mais on est aussi sur un dégoût et quelque part, oui, c'est ça, un rapport aux politiques, puisque la succession des élections, etc., absorbe et monopolise la parole politique et la manière de faire du politique. Voilà, là, on a une manière originale qui est propre à nous de produire du politique. C'est à ça que ça sert, un mouvement social. Et évidemment, plus il y a politique, plus il y a de mouvement, plus il y a de bouillonnement, plus ça leur chauffe les pieds là-haut à la bourgeoisie, et peut-être même que des fois, peut-être qu'on peut les ébouillonner. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de prendre ni des vessies pour des lanternes, mais peut-être au moins ses rêves pour des réalités, et en tous les cas, ne pas rater le train, aller voir, s'ouvrir, profiter justement de ces moments de suspension, ou s'il y a un blocage, ou si on a autre chose à faire. On a le droit de parler de tout, même quand on n'est pas d'accord, et c'est encore mieux si on en parle avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de parler. Et ces moments de rencontres dans les blocages, dans les grèves, dans les cortèges, dans les assemblées générales, le soir, dans les cafés ou chez les uns les autres si les discussions se poursuivent, là, c'est là que s'élabore véritablement le cœur du mouvement, quoi. Donc, est-ce qu'il va y avoir la possibilité de faire quelque chose? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que qui ne tente rien n'a rien. Et quand un mouvement social se passe, se déclenche, il y a toujours une part énorme de plaisir, de rencontre. Et on est toujours triste, effectivement, de revenir après au morne train-train quotidien. Bon, on va arrêter là parce qu'on commence à faire des jeux de mots pourris. On va écouter de la musique, puis on va parler de répression syndicale et de mouvement social aussi.
Oui, on va vous parler un petit peu de répression. Encore une fois, là, il s'agit de répression contre un syndicaliste très actif depuis des années, puisque en 13 ans, depuis 13 ans qu'il est à la poste, il a eu un an et demi, je crois, de mise à pied. C'est quand même un peu étonnant. Il faut dire qu'on est dans le 92, et dans le 92, au niveau de la poste, ça bouge depuis longtemps. Ça bouge contre les restructurations proposées, et de temps en temps, d'ailleurs, ça gagne en plus. C'est ça qui est important de voir, hein, les gens ne... Voilà. Alors, ce syndicaliste, qu'est-ce qui y arrive? Il y arrive tout simplement, c'est que le secrétaire départemental de Sud-Poste, hein, il a été demandé, la Poste demande une première fois sa mise à pied, son licenciement. L'inspecteur du travail n'est pas, parce qu'il est protégé, évidemment, il est élu, donc ils doivent saisir, la Poste est obligée de saisir l'inspection du travail. L'inspection du travail dit non. Bien évidemment, la Poste met le paquet en disant maintenant on va s'adresser au ministère du Travail. À cette époque-là, le ministère du Travail, je pense que c'était sous Hollande, je ne me rappelle plus c'était El Khomri, dit non.
Oui, elle a déjà oublié, mais elle a fait une petite loi qui est trois fois rien.
Dit non, c'est-à-dire qu'il n'était pas, il n'était pas, il a été réintégré d'ailleurs à cette époque. Ensuite, ça s'est poursuivi, c'est-à-dire qu'il y a eu tribunal administratif. Maintenant, il est devant la cour administrative d'appel à Versailles après-demain, le 28. Et puis depuis, la Poste est repassée à l'attaque pour une deuxième salve anti-répressive. C'est-à-dire que là, maintenant, le ministère de la fameuse Pénicaud, la ministre du Travail a dit oui à son licenciement. Voilà, c'est des choses qui est nouvelle. Alors, il y a une mobilisation, maintenant, qui a lieu ce soir, d'ailleurs, à 19h, actuellement, devant le ministère du Travail. Disons que c'est clair que le pouvoir veut absolument frapper ce type de gens qui ne rentrent pas dans les clous, quoi.
Alors, à noter que tu l'as dit, et vous reporterez aux émissions de l'Égrégore sur les grèves menées par Sud-PTT, Sud-Poste,
hein, Sud-Poste, ouais.
92, puisque c'est le deuxième secrétaire départemental que la Poste se fade. Yann avait déjà eu droit à un acharnement de la part de sa direction, qui avait abouti à sa révocation, qui finalement avait été annulé après pratiquement 3 ans de baston judiciaire. Là, ce qui est intéressant et la nouveauté quelque part, bon, c'est, tu as décrit, hein, il y a deux types de procédures. Il y a une procédure administrative et judiciaire, ouais. Et puis il y a une procédure qu'on va qualifier de hiérarchique. Donc là, on mardi le 28, Gaël passe en cour administrative d'appel. Donc ça va être jugé sur la forme. Hein, ça a été rejeté, mais la Poste a fait appel. Et puis pour la procédure hiérarchique, tu l'as dit,
aboutit à la ministre qui a dit oui.
Ça va jusqu'à la ministre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment les services et l'administration administrent et les services travaillent. C'est bien connu, Madame Pénicaud, elle a besoin d'avoir des éléments, hein, pour pouvoir prendre sa décision, et donc elle a demandé à l'inspection du travail de lui produire un rapport pour qu'elle fasse semblant de s'y intéresser, quoi.
Ouais.
Le rapport de l'inspection du travail est totalement clair sur les motivations de la non-acceptation du licenciement de Gaël, en expliquant que les faits qui sont reprochés, des faits de séquestration, hein, quand même, c'est énorme, hein, pour des envahissements de bureaux et de lieux de travail. Alors ça, voilà, c'est de la séquestration dans le capitalisme. Hein. Je vous laisse imaginer une personne qui se fait séquestrer, ce qu'elle peut penser de ce genre de truc. Bon, c'est pas grave, je divague. Mais en tous les cas, le rapport de l'inspection du travail a dit et a signifié que les faits reprochés étaient des faits qui étaient liés d'une part à son activité syndicale, d'autre part à une activité de travailleur en grève. Et que envahir des lieux de travail, parler sur des lieux de travail, c'était des faits qui étaient des actes qui étaient totalement reconnaissables comme des faits de grève, et que d'autre part, en ce qui concerne la relation entre Sud-Poste et la direction centrale de la Poste, il y a une stratégie de la Poste et un antisyndicalisme manifeste de la part de la direction de la Poste. Sur ce, l'inspection du travail estimait que le licenciement de Gaël n'était pas légitime. Et que d'autre part, il allait falloir demander des explications à la hiérarchie de la Poste dans sa relation, d'une part, avec l'ensemble de travailleurs de la Poste du 92, et également de la part de Sud-PTT, qui était particulièrement dégradé, alors que c'est un syndicat qui est représentatif et que, vous le savez, hein, aujourd'hui, le dialogue social, c'est quelque chose qui est très important et qui est vanté par le gouvernement. Donc, tension, parce que ça fait quand même depuis 2010 qu'il est pris dans les mâchoires de son taulier. Mais bon, Gaël est quelqu'un qui a le cuir tanné, et effectivement les batailles qui ont été menées dans les Hauts-de-Seine avec Sud 92 et l'ensemble de ses collègues font qu'ils savent que pour le moment, à la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Alors évidemment, il y a la question de la paye et de la survie et de la force morale qu'il y a derrière. Mais bon,
oui, dans 80. Voilà, hein. On a fait des émissions qu'on a eu Gaël une fois au téléphone.
On a eu Gaël, on a eu Yann, on a eu tout un tas de grévistes. C'est des gens qui ont réussi à obtenir la titularisation de personnes qui étaient en CDD, qui étaient précaires. Donc c'est totalement inadmissible. On le comprend pour la direction de la Poste, et effectivement, il est beaucoup plus que souhaitable pour eux de se débarrasser de ce genre d'individu. Et malheureusement, c'est pas encore la direction de la Poste qui va distribuer les lettres, hein. Donc pour le moment, il faut qu'elle se contente. Elle a pas encore de drone, donc pour le moment, il faut qu'elle se contente de ces horribles travailleurs qui manifestent et se laissent pas faire.
Alors il y avait grève aujourd'hui, hein, de la Poste, hein. Je ne sais pas si ça a été beaucoup suivi. Dans le 92, à mon avis, si. Hein.
D'après les dernières informations que j'avais, moi, on parlait de 40%. 1 sur 2 dans le 92, c'est énorme. Et en plus, ce qui est vachement chouette, c'est que l'action des travailleurs de la Poste du 92 est toujours en lien direct avec les gens qui habitent. Hein, ils expliquent pourquoi ils vont là. Donc, on est sur Asnières, Gennevilliers, etc., etc. Donc, aussi des coins où le service public est vachement important, où la Poste est encore les derniers gens qui passent dans les quartiers, et ben t'as toute la population aussi qui est derrière, et ça leur donne encore une raison de plus de pouvoir tenir.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Grégores chaque semaine sur les Collégariques à Montpellier, Canassul à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.